vous dépasse. Et tu sais combien nous sommes, oui, si petits et combien nous avons besoin de toi. Nous avons encore et encore besoin de le réaliser. Père, nous avons entendu tellement de choses ce matin, tellement riches ce que nous avons entendu. Tu es ce Dieu qui est notre paix, notre joie. Dans les tempêtes, tu es celui qui domine tout cela. Et nous pouvons compter chaque jour sur toi. Seigneur, nous voulons maintenant être à l'écoute de ta parole. Aide-nous. Aide-nous à être à ton écoute. Dispose nos cœurs à obéir à ce que tu veux nous dire. Tu connais nos habitudes de confort, nos habitudes d'écouter de très bons messages, peut-être, et puis à la fin de dire « Waouh, ça m'a peut-être secoué, ça m'a fait quelque chose, mais rien ne change. Rien ne change. » Seigneur, nous ne voulons pas être ainsi ce matin. Nous nous attendons à toi et nous voulons changer. Nous voulons t'obéir, nous voulons voir ton action dans nos vies. Père, transforme nos vies au travers de ce que nous allons entendre de ta parole. Manifeste-toi, révèle-toi à nous. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci pour ta présence et merci pour ce que tu vas faire maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on est peut-être des professionnels à écouter de bons messages, n'est-ce pas ? Mais quand il s'agit de mettre en pratique, je n'en dis pas plus. Mais faisons attention à ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et je le répète, je vais prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai tout fait pour ne pas prêcher quelque chose qui me fait du bien, pour vous présenter des choses qui vont vous faire plaisir. Mais j'ai tout fait pour être dans un esprit de prière et savoir ce que Dieu veut me dire et nous dire ensemble. Et autant que vous, je vais recevoir pendant ce temps. Je ne suis pas mieux que vous. Je viens avec un cœur qui a besoin de Dieu, qui a soif de l'entendre. Et on veut tous ensemble être là à l'écoute de notre Dieu et lui obéir. J'ai quelque chose sur le cœur qui me fait très mal. C'est quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Dieu qui est notre Créateur est venu en la personne de Jésus-Christ. À cause de nos fautes, de nos péchés, de notre désobéissance à sa volonté, Dieu en la personne de Jésus est mort sur la croix, sur une croix. Quelle honte! Mais quelle gloire pour nous! Et juste à y penser, encore ce matin, j'étais en train de boire cette petite coupe de jus de raisin, et je me dis, mais du sang a coulé pour moi. Du sang a coulé pour moi. Et ce que je ne trouve pas normal, c'est que Dieu n'a pas du tout compté pour... Il s'est donné sans compter. Mais nous, est-ce que nous nous donnons à Dieu sans compter ? Est-ce que nous nous donnons à Dieu sans compter ? À quel point cet amour de Dieu qui nous dépasse nous saisit au point que nous nous donnons totalement à Dieu. Oh, je suis le premier à dire que j'aime Dieu. Mais quand je regarde et j'ose m'observer, je me rends compte que je ne donne pas tout à Dieu. Pourquoi nous ne manifestons pas autant d'amour que nous le devrions, de reconnaissance envers Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand nous, chrétiens, entendons que quelqu'un a donné sa vie pour Jésus-Christ, nous sommes touchés et nous sommes dans l'étonnement. Waouh, c'est incroyable! Il a donné sa vie comme cela pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a d'incroyable là? Pourquoi c'est incroyable? Pour nous, Quand on voit de tels gestes, cela, pour nous, cela concerne des chrétiens extrêmes, n'est-ce pas? Et non ceux qui figurent dans la moyenne. Pour nous, ce n'est pas possible, ça, c'est des chrétiens extrêmes, ils sont tellement incroyables. Et peut-être ce sont des pasteurs, des évangélistes. Oh, l'apôtre Paul, mais oui, mais c'était un homme incroyable. Et nous regardons ces gens de haut et nous pensons que c'est extrême. Mais ce que nous disons extrême, pour Jésus, c'est normal. Pour Jésus, c'est être un chrétien. Pour Jésus, c'est être un disciple. On est tellement dans un confort aujourd'hui que pour nous, l'Église, elle est comme ça et c'est bien. Mais regardons le Nouveau Testament, lisons la parole et nous verrons qu'il y a un écart immense entre ce que nous vivons et ce qui est écrit. Est-ce que nous nous donnons totalement à Dieu? Et pourquoi ce serait réservé à des gens extraordinaires? Vous savez quoi? Un jour, Jésus a dit quelque chose qui peut vraiment nous secouer ce matin. Et j'espère que ça ne va pas juste nous secouer. Mais ça va nous changer. Dans Marc chapitre 14, verset 9, il est dit ceci, « Vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui dit cela, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. » Et j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, de quelle histoire il s'agit? De quelle histoire il s'agit? Le parfum qui a été répandu sur Jésus. Ce verset est vraiment étonnant et pour moi c'est fou. Jésus veut que partout où on annonce l'évangile, dans le monde entier, cette histoire en particulier soit racontée. Vous trouvez ça ailleurs dans les textes bibliques? Jésus veut, bien sûr, comme on l'a fait ce matin, que nous prenions le pain et le jus de raisin, qu'on se rappelle cela. Mais ce texte-là, il veut qu'on s'en souvienne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette histoire pour que Jésus ose dire des choses aussi fortes? Qu'est-ce que cette femme a fait de si important pour qu'on parle d'elle partout où l'évangile est annoncé? On va le voir maintenant. Je vous invite à lire maintenant cette histoire dans Jean chapitre 12. Comme vous le savez, cette année, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Nous dégustons, entre guillemets, ce livre extraordinaire qui nous montre qui est Jésus-Christ. Et là, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 12 et nous allons juste voir les versets 1 à 11. Jean chapitre 12, verset 1 à 11. À 11. Jean chapitre 12, verset 1 à 11. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, comme d'hab. Et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité dans l'autre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare. Car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Amen. Waouh ! Pour bien comprendre le geste de Marie, nous avons besoin de comprendre le contexte de cette histoire. Incroyable mais vrai. Lazare, qui était terriblement malade, au point d'en mourir, on dit qu'il est resté, on ne sait plus combien de temps ? 4 jours. Oula, on va sentir bien mauvais tout ça. Ça, on le spécifie dans le texte, dans le chapitre précédent. Lazare est ressuscité. Et il est là, au milieu. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. On ignore combien de personnes étaient présentes à ce banquet. Lui qui était mort, lui qui était resté 4 jours, maintenant vivant, en train de manger. Il y a donc Lazare, il y a ses 2 sœurs qui sont à table, Marthe et Marie. Il y a les 12 disciples, Simon le lépreux. Qui dit Simon le lépreux dit qu'en fait, il n'a plus de lèpre. Et Jésus. On peut imaginer l'ambiance qu'il y avait à ce moment. Hein. Une ambiance incroyable devait régner, une ambiance de fête. Il y a même une multitude qui vient pour voir Lazare qui avait été ressuscité. Tellement c'était fou ce qui se passait. Donc la scène qu'on voit là, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est dans toute cette ambiance qu'on voit, qu'on arrive à comprendre. Quand on voit cette ambiance, c'est là qu'on arrive à comprendre le geste de Marie. Marie a un cœur débordant de reconnaissance d'avoir son frère ressuscité. Et elle n'a pas juste son frère ressuscité. Elle a Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Elle a celui qui est Dieu lui-même. Elle y croit fermement. Dieu lui-même fait homme, est au milieu de nous. Il est là. Waouh ! Marie veut exprimer un geste de reconnaissance, d'amour, d'adoration. Elle veut dire un immense merci. Et comment faire ? Et là, elle fait un geste fou. Elle fait un geste totalement fou. Elle va verser la totalité d'un parfum qui coûte l'équivalent d'une année de salaire. Une année de salaire. Vous entendez ? Oh ! Vous êtes là ? Une année ! En moyenne, combien serait une année de salaire en France ? Je n'ai pas fait le compte. C'est énorme. Mais réfléchissez un peu. Quand on pense juste au SMIC et on se dit, mais combien ce serait une année ? C'est énorme. Moi, on se disait avec Fanny, on tremblerait avec le parfum. Attends, on va vraiment le faire ? On le fait, on le fait pas ? Toute une année de... C'est énorme ! C'est de la folie ! Certains disent qu'à l'époque, c'était le parfum préféré des riches. Marie était-elle riche ? Peut-être. Ou elle a fait énormément d'économies pour avoir cela. Ou peut-être qu'elle a reçu. On n'en sait rien, il n'est rien dit là. Mais elle a ce parfum. Et elle fait quelque chose de fou. D'autres ajoutent que les textes parallèles dans Marc et Matthieu peuvent nous amener à la conclusion que Jésus a été couvert de ce parfum de la tête aux pieds. Parce que dans Marc chapitre 14, verset 3, elle commence à verser le parfum sur la tête de Jésus. Et ensuite, Jean chapitre 12, verset 3, elle finit par ses pieds. Et Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 26, verset 12, qu'elle a mis du parfum sur mon corps. Ah, ce n'était pas une petite quantité. Quelqu'un avait réfléchi et avait dit la quantité du parfum devait faire à peu près 2 verres d'eau. Mais là, quand on parle de pureté, ça veut dire que là, c'était concentré. Concentré. À vue humaine, ce que Marie fait, c'est de la folie. Et c'est pour ça que Judas, l'un des disciples, prend la parole pour dire que c'est en fait du gaspillage de faire cela. Et puis c'est un connaisseur, notre cher Judas, ce qui est dit 300 deniers, il s'approche bien du prix de ce qui est donné là. Il parle des pauvres, mais en fait, notre cher Judas veut l'argent pour lui-même. Et puis, il y a vraiment trop d'indices qui nous montrent que la cupidité était le grand défaut de Judas. Cette cupidité l'a amené à pécher, l'a amené à trahir qui ? Jésus. Jésus. Et en plus, après, à la fin, il se suicide. Il se donne la mort. Malgré ce geste fou, Jésus justifie le geste de Marie. Il dit qu'elle a fait cela pour son enterrement. C'est-à-dire que, comme on embaume un corps avant de l'ensevelir, elle a voulu rendre du vivant de Jésus le même honneur qu'on rend à un mort. Ce qui est surprenant, c'est clair, c'est qu'elle donne un parfum d'un prix. Mais l'autre chose qui est surprenante, c'est que Marie, dans son âme profonde et aimante, avait pressenti la mort prochaine de Jésus. Les disciples étaient toujours en difficulté. Il va mourir, mais qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Mais on ressent là que Marie comprend ce qui est en train de se passer. Et puis c'est de plus en plus clair. Jésus est en train de dire de plus en plus clairement, l'heure est arrivée, c'est bon, c'est maintenant. J'y vais. On y va. Je vais mourir. Je vais être glorifié. Elle avait pénétré le sens des prédictions nombreuses que Jésus avait faites de cette mort, tandis que les disciples n'y avaient rien compris. Elle avait vu d'ailleurs la haine de ses adversaires. Ça devenait de plus en plus balèze. À la suite de la résurrection de Lazare, il veut même faire mourir Lazare, parce qu'il est un témoin trop efficace là. Quelqu'un disait ceci, il n'en fallait pas davantage pour faire naître dans l'âme de Marie ce pressentiment douloureux auquel Jésus donne une expression plus précise. Il va mourir. Elle le sait, elle le ressent, mais là ça devient plus clair. Les paroles qu'il prononce durent être d'ailleurs pour Marie une révélation nouvelle, en même temps qu'une précieuse approbation de ce qu'elle venait de faire. Maintenant, je repose la question du début. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire de si important ? Qu'est-ce que cette femme a fait de si important pour qu'on doive parler d'elle jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier ? Je me suis dit, en préparant ce message, mince, il faut prêcher souvent sur ce texte, c'est ça là ? Quelle serait la réponse à cette question ? La réponse, en fait, est très simple. Marie montre ici une foi authentique. Marie montre ici une authentique réponse à qui est Jésus-Christ, son amour, sa grâce, le fait qu'il soit la résurrection. Marie est un modèle d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Car la bonne nouvelle, normalement, bouleverse notre vie au point que notre cœur déborde de reconnaissance et d'amour. Son geste l'exprime fortement. Son amour se mesure à son abandon total pour Jésus-Christ. Pour elle, rien n'est trop précieux pour en faire don à Jésus-Christ. Il est digne de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes. Voilà la conclusion. Jésus est digne de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes. Et donc de là, ça m'amène à ne rien voir dans ma vie de trop précieux. Je me donne entièrement à Jésus-Christ. Elle ne montre pas quelque chose d'extraordinaire. Elle montre une image d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Le geste de Marie servira donc à commémorer son amour pour Jésus. Son amour pour Jésus. Question. Est-ce que Jésus-Christ produit toujours cela dans ma vie? Est-ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ continuent à bouleverser ma vie au point de faire de tels gestes fous aux yeux du monde, fous peut-être aux yeux des chrétiens? Ah oui. Parce que ceux qui sont dans le confort vont vous critiquer. Ça, c'est très clair. Mais non, Manu, tu ne peux pas donner tout ça à Dieu. Ah bon? Est-ce que l'amour de Dieu me pousse à me donner chaque jour entièrement à lui? Oh, nous aimons tous Dieu, n'est-ce pas, hein? Mais pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous avons tous cette tendance, en voyant ce geste d'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet amour fou de cette femme, à dire que c'est beau, c'est tellement touchant. Oh. Mais non, cela devrait nous secouer, nous reprendre, car nous ne parlons pas ici d'un événement juste incroyable. Ce texte nous révèle l'amour normal de tout disciple de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, relisez le Nouveau Testament. Relisez même l'Ancien Testament et vous verrez que Dieu attend de nous la totalité de ce que nous sommes. Nous disons facilement que cette forme de dévouement total n'est pas accessible aux gens ordinaires. Mais non, ce n'est pas accessible à moi, ça, du tout. C'est réservé aux pasteurs, aux missionnaires, aux gens qui sont vraiment radicaux pour Jésus-Christ. Mais nous, attends. Alors moi, je dois te poser la question, est-ce que tu es vraiment disciple de Jésus-Christ? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il... Vous êtes là? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est total, ça. Totalité de qui nous sommes. En tout cas, si c'est notre langage de comprendre, de voir ce texte et de juste être là, c'était incroyable, mais moi, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pour les gens qui sont au top niveau, mais moi, pas du tout. Il y a un problème dans notre foi. Il y a un problème dans notre compréhension de la croix. Parce que c'est inévitable. Plus vous allez vous approcher de la croix, plus vous allez faire des gestes comme Marie a fait.